Bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième émission d'Analyse F1 à propos du sécuritarisme inconsistant de la FIA, une émission enregistrée le 10 octobre 2014. Alors, tout d'abord, veuillez m'excuser pour ces quelques jours de pause, mais il m'apparaissait nécessaire et j'espère que vous allez vraiment me pardonner suite à l'accident de Bianchi, l'accident dramatique de Bianchi. J'ai ressenti le besoin de prendre ces quelques jours de pause parce que j'étais assez choqué. Je le suis encore déjà, mais il me fallait quelques jours de recul, d'autant plus parce que cette émission numéro 2 porte sur un thème relativement lié, on va dire, qui peut être relativement lié, relié à cet accident. Et ce n'est pas voulu. C'est un thème d'actualité, mais ce n'est pas voulu. Ça fait longtemps que ce thème est prévu. Si vous suivez Analyse F1 depuis un moment sur les plateformes de Podchose, eh bien, vous le savez que je comptais faire cette émission en émission numéro 2. C'était le but je n'allais pas la reporter de nouveau. Et puis, comme on dit, the show must go on, avec mon accent anglais parfait. The show must go on. Bon, là, ça fait une voix de canard, mais c'est pas grave. Voilà, le show doit continuer. Par respect pour Bianchi, qui a fait le choix de faire de la F1 sa vie, et il faut respecter aussi ça et ne pas continuer l'émission, par exemple, ou par exemple pour les pilotes ne pas continuer de courir. Ça aurait été déjà de l'irrespect pour Bianchi, et ensuite ça serait démontrer et prouver la défaite de la Formule 1 face à un accident tragique, certes. Voilà, et puis le slogan de l'émission, vous le savez, c'est « Vivons notre passion », et je souhaite le rappeler pour une fois avant la fin de l'émission, c'est vraiment ça. Donc « Vivons notre passion », on doit bien ça à Bianchi, et puis voilà, c'est la Formule 1 reste en vie, doit rester en vie, ne doit pas être abattue, doit apprendre de ses erreurs, là aussi on va en parler dans ce thème, évidemment. Alors tout d'abord, en guise de sommaire, on va dire, de cette émission. Tout d'abord, dans une première partie, je rappellerai que la sécurité est vraiment un facteur majeur dans la Formule 1, mais qu'elle ne doit pas être exagérée au détriment du sport, ce qui est le cas parfois, malheureusement. Et au milieu de tout ça, il y aura un petit quiz avec le deuxième candidat, qui essaiera donc de battre Loïc et ses 8 points. Donc n'hésitez pas à rester à l'écoute. Il y aura aussi d'autres petites surprises que je vous annoncerai en temps voulu. Alors tout d'abord, concernant la sécurité. Alors je dois bien rappeler, parce que certes, le but là de cette émission, c'était vraiment de mettre en exergue, et c'est vraiment de mettre en exergue également les défauts de la FIA concernant la sécurité, ou que ce soit parmi les manques, ou parmi aussi l'exagération surtout, d'où le terme sécuritarisme. Parce que on a pu observer que la FIA parfois fait passer l'aspect sécurité pour faire passer certaines mesures, mais on peut voir que c'est plus politique qu'autre chose, parfois, ou que c'est contre le sportif. Enfin bref, tout ça c'est un peu inconsistant. Voilà, il y a des décisions assez illogiques par rapport à d'autres, et on va essayer de démêler tout ça. Donc tout d'abord, important de rappeler que la sécurité a toujours été un point vraiment très important pour la FIA, et ça lui tient vraiment à cœur, et c'est normal, et pas que pour la FIA, pour les pilotes également, depuis la création aussi du GPDA, qui marque vraiment une prise de conscience, une grosse prise de conscience encore plus que le danger est présent et que les pilotes peuvent agir afin de changer certaines choses, que les choses s'améliorent. Et donc c'est important pour les pilotes que eux-mêmes puissent courir sur les circuits avec un maximum de sécurité. Ça c'est sûr, et c'est important qu'ils puissent exercer leur sport dans un maximum de sécurité. Mais il est important de rappeler que, et je le répéterai sûrement au cours de cette émission, que la sécurité maximale, enfin la sécurité à 100% n'est pas possible en Formule 1. Et on comprend bien pourquoi, c'est un peu le cas dans tous les sports mécaniques, c'est un sport de risque, comme peut l'être des sports comme la boxe par exemple, même des sports de ballon hein, collectif, le football, hein, il y a des blessures tous les week-ends hein, dans les différents championnats, c'est des sports de risque, des sports de contact. Concernant les sports mécaniques, eh bien, avec les grandes vitesses, on comprend évidemment à quel point ça peut être dangereux. Et malheureusement, on en a eu vraiment une preuve le week-end dernier. Le week-end dernier, où ben, franchement, comment pouvait-on s'attendre à ça? On s'attend jamais à des trucs comme ça et c'est vraiment. On ne souhaite pas ce genre d'accident. Donc voilà, la sécurité est un point très important pour la FIA et je vais le prouver à travers différentes. Et pour les F1, je vais le prouver à travers à travers un parcours historique. Par exemple, en 1980, la McLaren MP4-1 fut la première à être construite entièrement en carbone. Et ensuite, ça a été démocratisé, évidemment. Toutes les écuries ont adopté ce modèle de construction efficace et sécuritaire. En autre exemple, eh bien, plutôt le plus gros exemple, on va dire, je parlais de l'héritage Senna suite à son accident mortel en 1994 à Imola. Beaucoup de mesures ont été prises, donc j'ai déjà parlé de la création du GPDA. Ensuite, dès 1994, il y a aussi une prise de conscience que les circuits doivent être plus sécurisés. Et au-delà de la prise de conscience, il y a eu de l'action. Ensuite, en 1996, les habitacles ont été rehaussés. Et on a mis en place un appui-tête qui absorbe les chocs. Ensuite, il y a eu le fameux système ANT, qui est très important, que ce soit pas qu'en Formule 1 d'ailleurs, parce il a été appliqué dans nombre de sports automobiles. Ensuite, après l'accident de Massa en 2009 en Hongrie, où si vous vous souvenez pas trop, je crois que c'était en essai libre, ouais, c'était en essai libre. Au volant de sa Ferrari, il s'est pris un boulon qui s'est détaché de la brown GP de Rubens Barrichello et il a dû arrêter la F1 pendant un certain moment afin de recouvrir on va dire tout simplement qu'il puisse avoir les deux yeux ouverts dans le casque puisqu'il avait été touché vers cette zone et il avait dû subir une opération évidemment. Donc après ça, la sécurité des casques a été renforcée, ce qui est bien. Et après plusieurs problèmes de roues qui se détachent, eh bien en 2013, on a renforcé la sécurité du système de fixation des roues. Donc ce qui est bien aussi, parce que ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas déstabilisé les mécaniciens au niveau du changement de pneus. On a vu que les temps de changement de pneus étaient équivalents. Donc c'est bien, tant que l'aspect sécurité, quand il est mis en avant, ne se fait pas au détriment, on va dire, du sport, au détriment donc des pilotes, je trouve ça parfait. Et quand c'est vraiment utile, comme là, les différentes mesures que j'ai citées, je ne les ai pas toutes citées, hein, je rappelle que c'est des exemples et qu'ils peuvent être déclinés en dizaines de fois. C'est vrai que les différentes prises de conscience de la FIA sont nombreuses et ont été nombreuses à travers l'histoire de la F1, et tant mieux. Tant mieux, tant mieux pour les pilotes, qui sont pour les pilotes, et également je n'oublie pas les mécaniciens, je n'oublie pas les commissaires de piste, même s'il y a encore des accidents vraiment, vraiment malheureux. On a noté, je crois que c'était Canada 2013. Canada 2013, oui. Où malheureusement un commissaire de piste est décédé. Mais voilà, en tout cas, la sécurité est renforcée, que ce soit sur la piste, dans l'habitacle, à l'abord des pistes, dans les stands. Tout est fait pour qu'il y ait le moins de problèmes possible. Et tant mieux. Et tout ça montre que la FIA apprend véritablement de ses erreurs ou de ses manques. Parce qu'il n'y a pas que des erreurs hein, commises par la FIA. Chaque mesure ne résulte pas d'une erreur. Ça peut résulter d'un manque. Ça peut résulter, voilà. Le manque qui est directement complétée par un progrès technologique qui a été effectué. C'est comme ça que ça marche et c'est souvent très bien. Souvent très bien ce que fait la FIA au niveau de la sécurité, mais parfois c'est moins bien et c'est ce sur quoi je vais m'attacher à parler ensuite. Et ensuite ce sera après le quiz, puisque oui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet après le quiz, même si là on est déjà rentré, hein. Il ne faut pas non plus minimiser l'impact qu'ont les différentes améliorations au niveau de la sécurité, qui sont vraiment majeures, qui sont vraiment importantes, qui font que, par exemple, cette année, quand on voit des monoplaces partir en tonneau, eh bien les pilotes s'en sortent avec rien, même pas un mal de dos quasiment. Donc c'est vraiment très impressionnant quand même tous les progrès qui sont faits. Mais il ne faut pas occulter également la partie, on va dire, immergée de l'iceberg que je vais traiter et on va voir les perspectives d'amélioration que pourrait avoir la FIA dans les années à venir pour essayer d'améliorer tout ça, d'être plus cohérente dans ses choix et on va démêler tout ça. Mais avant tout ça, un quiz. Oasis réussira-t-il à détrôner les 8 points de Loïc? Vous le saurez après ce quiz qui a été enregistré. Ah oui, je tiens à le rappeler. Le quiz a été enregistré avant cette émission et a été enregistré surtout avant le Grand Prix du Japon. Je dis ça pour éviter tout malentendu par rapport à je sais pas, à certains propos qui auraient pu être innocemment prononcés, je ne sais pas. Je dis ça au cas où vraiment pour vraiment signaler à titre d'information. De toute façon, je le rappelle dans le quiz. Je me souviens que je le rappelle, que le quiz a été enregistré avant le Grand Prix du Japon. Donc gardez bien ça en tête. Et avant le quiz, une petite pause musicale afin de bien digérer déjà ce petit amas d'informations et afin de pouvoir enchaîner ensuite avec un quiz vraiment fun, puis directement avec la suite et fin de l'émission, où là on va rentrer dans le dur, hein. Ce sera vraiment pas que du positif, ça c'est sûr. Et avant ce quiz, une petite pause, voilà, musicale. Je souhaite vous présenter, non pas une musique classique cette fois-ci, mais un groupe grenoblois de jack blues metal qui s'appelle Why Blues. Et donc, ça s'écrit Y Blues, ça se prononce Why Blues, mais ça s'écrit Y Blues. Plus d'informations sur ce groupe sur leur site whyblues.com ou sur leur page Facebook. Et voilà, bonne écoute de leur titre 45 Reasons. À tout de suite.
Going back from work, just a few minutes on my wheel. Mistake the elevator, just half a stage to wait. 45 reasons. The time blew the reasons. One step on the floor, I can't
c'est parti pour ce deuxième quiz d'analyse F1 avec Oasis, le deuxième participant que je vais appeler dès maintenant. Allô Oasis ?
Allô, oui je suis là.
Bonsoir, ça va ?
Ça va très bien, merci. Et toi ?
Ça va, je te remercie. D'où nous viens-tu ?
Alors, j'habite à côté de Rennes, en Bretagne.
D'accord, très bien. Et tu avais écouté déjà le premier quiz ?
Oui, je l'avais écouté, je m'en souviens plus vraiment, mais oui, je les ai tous écoutés, tes podcasts, donc c'est sûr.
Merci, je te remercie. Et c'est l'occasion de rappeler un peu les règles, justement, et un peu ce qui s'est passé au premier quiz. Donc, les règles, c'est simple. En fait, il y a 5 quiz répartis sur les 5 émissions d'Analyse F1, donc un quiz par mois. Et le participant qui aura le plus de points, donc peut-être toi, Oasis, eh bien, aura gagné le quiz. Alors, gagner quoi ? Je ne sais pas encore si je matérialiserai un prix ou si ce sera juste la gloire de pouvoir se la péter. Je ne sais pas encore.
D'accord.
Voilà. En tout cas, au premier quiz, Loïc avait réalisé un score de 8 points. Est-ce que tu penses pouvoir atteindre ce résultat ?
Je ne sais pas. J'espère, mais je ne sais pas. Ça dépendra à quel type de question ce sera. Je peux pas. Je peux faire des pronostics.
D'accord, très bien. En tout cas, pour les questions, pareil que pour le premier quiz, j'ai pris 15 questions qui me venaient en tête, mais vraiment sur le vif. Donc il y a des questions que j'ai voulu plus simples que d'autres, certaines que j'ai voulu plus compliquées, afin d'équilibrer à chaque fois, d'avoir à peu près le même ratio de questions simples, questions compliquées, questions que j'estime un peu d'actualité, etc. Un peu de tout, quoi. Et on va bientôt être parti. Avant ça, oui, quand même rappeler les règles du quiz en lui-même. Oasis, tu auras à répondre à 15 questions en 1 minute 30.
D'accord.
Ce qui laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une possibilité de passer certaines questions, oui. En disant tout simplement « je passe » ou « passe », comme tu veux. Mais avant ça, il faudra écouter l'intégralité de la question. Tu ne peux pas répondre avant que la question soit entièrement posée.
D'accord.
Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout. Non, à part ça, pour la deuxième fois, je laisse le suspense du quiz. Je tiens à signaler aux auditeurs que ce quiz est enregistré avant le Grand Prix du Japon. Ça peut avoir son importance concernant certaines questions.
C'est possible, oui.
Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt, Oasis ?
Je suis prêt, oui.
Eh bien, c'est parti. Top, combien de points séparent Hamilton et Rosberg avant le Grand Prix du Japon ?
2.
Non.
3.
Ouais, c'était 3. Vrai ou faux, Vettel a remporté un Grand Prix cette saison ?
Faux.
Oui. Combien de titres mondiaux a remporté Mika Hakkinen ?
Passe.
Max Verstappen est de quelle nationalité ?
Il est russe ?
Non.
Hollandais, merde.
Ouais. Combien d'écuries en F1 cette saison ?
11. Attends.
Ouais. C'est ça.
11, ouais.
Ouais. Le premier virage d'Abu Dhabi tourne à gauche ou à droite ?
À gauche.
Oui. Jenson Button a remporté son titre de champion du monde en 2009. Qui était son coéquipier ?
Barrichello.
Oui. Fangio a-t-il remporté ses 5 titres d'affilée ?
Passe.
Cite les deux pilotes mexicains présents cette saison en Formule 1.
Pérez et Gutiérrez.
Oui. Quels sont les grands prix disputés de nuit cette saison ?
Singapour et Bahreïn.
Oui. Raikkonen porte quel numéro ?
Le 7.
Oui. Dans le jeu F1 2014, quelle écurie n'a pas ses couleurs réelles ?
Williams.
Oui. Quelle nouvelle écurie devrait arriver en 2016 ?
Haas.
Oui, c'est ça. Haas F1 Team. Quel président emblématique de Ferrari a quitté récemment sa fonction ?
Di Montezemolo.
Oui. Le dernier podcast d'Analyse F1 concerne quelle écurie en particulier ?
McLaren.
Oui. Combien de titres mondiaux a remporté Mika Hakkinen ?
Aucune idée.
Ah, c'était 2. Voilà, et c'est fini, les 1 minute 30 sont passées. Donc on va compter les points. Je pense que t'en as pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, je recommence, j'en loupe. Sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ton avis ?
Je sais pas, je dirais, attends, sur 15 questions, j'ai dû en rater. Ouais, je dirais peut-être 9, 8, 9. Parce que j'ai fait quelques erreurs assez bêtes au début, donc bah voilà, dans ces eaux-là.
Eh bien, tu te sous-estimes. 11 bonnes réponses.
Waouh, c'est
Bravo.
bien!
11 bonnes réponses. Et ben, félicitations, là, t'as
Merci.
vraiment fait péter le score pour l'instant. Désolé Loïc si tu nous écoutes, et je sais que tu vas écouter le quiz en particulier, mais tu as été battu par Oasis cette fois-ci.
Oh, sans rancune.
Ouais. Alors on revient sur les questions qui t'ont un peu posé souci. Alors la première question, c'était combien de points séparent Hamilton et Rosberg avant le Grand Prix du Japon? Donc t'avais répondu un peu en retard, enfin t'avais répondu 2, puis 3, c'était 3, ouais, en
Oui,
effet.
pris dans le comme ça dans la vitesse, j'ai hésité. Bon, dommage.
Ah oui, c'est une difficulté de ce quiz, c'est vrai. La troisième question, c'était combien de titres mondiaux a remporté Mika Hakkinen? La réponse était 2 en
Je n'avais
98
absolument
et
aucune idée.
99. Max Verstappen, sa nationalité. Donc ouais, là aussi, en deuxième réponse, t'avais eu bon, t'avais dit néerlandaise, c'était pas russe. Il y avait quoi d'autre comme question? Fangio a-t-il remporté ses 5 titres d'affilée? Non, il en a remporté 4 d'affilée, mais c'était ses 4 derniers titres d'affilée. Simplement.
D'accord.
Et je crois que c'est tout. Après, t'as fait un sans faute sur les. Et oui, t'as fait un sans faute sur les 7 dernières questions quand même.
C'est bien. Je suis
Oui,
content de moi.
je recompte là. Attends, je recompte 1, 2. Ouais, c'est bon, 11 bonnes réponses. Je ne pense pas que j'ai mal compté. Je vérifie plutôt deux fois qu'une parce qu'on ne sait jamais. Non, c'est bon, 11 bonnes réponses, 11 points sur 15. Donc, t'es largement au-dessus de la moyenne et ça va être dur de te détrôner, je pense.
Ah, j'ai vu des erreurs bêtes, je pense qu'il y a possibilité pour les prochains, s'ils sont vraiment bien calés, de faire mieux que moi, mais c'est déjà un beau résultat, je suis content.
Ah oui, tu peux l'être. Bravo. Bravo à toi, Oasis, en tout cas.
Merci.
Et merci d'avoir participé à ce quiz d'analyse F1.
Ah, de
C'est vraiment un
rien.
plaisir. Et avant de nous quitter, j'avais entendu parler que tu avais un podcast, non?
Je sais pas mon podcast, mais je fais partie d'une autre émission qui s'appelle Gamecraft, qui parle de l'actualité des jeux vidéo et de l'actualité high-tech en règle générale. Et donc j'ai intégré ce podcast assez récemment. Donc n'hésitez pas à aller nous écouter sur c'est www.gamecraft.fr, il me semble. Ou autrement, vous retrouverez tout sur le site qui s'appelle soulcity.fr. Voilà, vous avez deux adresses, vous trouverez forcément sur l'un ou l'autre, vous trouverez les informations nécessaires pour nous écouter.
D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on a toutes les informations pour aller suivre ce podcast. En effet, en plus, j'avais déjà vu le nom de ce podcast sur Podcast France d'ailleurs. Si vous écoutez Analyse F1 via Podcast France, vous pouvez accéder à ce podcast en particulier. Donc n'hésitez pas, il est facilement trouvable parce qu'en plus, il me semble qu'il est dans le top des votes. Donc
Oui,
n'hésitez pas.
c'est comme ça que j'ai découvert.
D'accord, très bien en plus. Eh bien, peut-être que d'autres personnes justement découvriront aussi et ça peut être sympa. Eh bien, merci à toi en tout cas Oasis encore une fois.
Bah de rien.
Et on va voir dans les prochains mois si les autres concurrents arriveront à te battre. En parlant d'autres concurrents, pour l'instant il n'y en a pas, donc n'hésitez pas à ajouter sur Skype Analyse F1, tout attaché Analyse F1, vous m'ajoutez, je vous accepte, et puis après je fais dans l'ordre, hein, premier arrivé, premier servi. Il reste trois quiz pour cette première, comment dire, série de quiz, donc n'hésitez pas à comment dire, à ajouter Analyse F1. Si jamais les deux, ah oui, je n'ai pas signalé ça dans les règles, mais j'y ai pensé il y a peu. Si jamais vous êtes deux ou plus à être égalité au bout des 5 mois, eh bien j'espère pouvoir organiser une sorte de grosse finale sur un quiz un peu particulier, hein, une forme de jeu un peu particulière qui pourra permettre de départager tout le monde et de s'amuser surtout, parce que c'est le but de s'amuser, d'apprendre quelques trucs sur la Formule 1 avec ce quiz. Eh bien voilà, c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose, un petit mot à dire pour la Formule 1, pour un pilote ou autre, Oasis?
Non, pas. J'ai hâte de voir le Grand Prix du Japon là, avec les news qui sont tombées là aujourd'hui. Donc on est vendredi, donc j'ai hâte d'en voir plus demain matin et dimanche matin. Et puis, j'ai pas de pilote favori cette saison. J'étais un fan d'Alonso à l'époque, mais cette année, il fait moins de performances. Donc, que le meilleur gagne, on va dire.
D'accord, très bien, que le meilleur gagne. Moi j'espère voir un peu de pluie, pas trop non plus, sinon le Grand Prix va être annulé, mais un peu de pluie et un duel Rosberg-Hamilton
Ah oui, bah j'espère quand même, oui, que ce
à la
sera un Grand
hauteur.
Prix passionnant.
Voilà. Eh bien, merci à toi et rendez-vous le mois prochain pour le quiz. Mais ne quittez pas vos écouteurs, votre casque ou votre chaîne IFI, vos haut-parleurs de chaîne IFI, puisque Analyse F1, l'émission sur le sécuritarisme de la F1 n'est pas encore terminée. À tout de suite.
C'est parti pour la suite et fin de cette émission numéro 2 concernant le sécuritarisme inconsistant de la FIA. Et on va parler maintenant des aspects un peu plus négatifs concernant les mesures prises par la FIA, les mesures un peu plus incohérentes, en commençant par parler des ailerons avant et de la réglementation 2014, puisque cette saison, la réglementation 2014, outre l'objectif de perdre l'appui et de rendre des monoplaces un peu plus compliquées à piloter, c'était avant tout une réglementation faite dans un aspect de sécurité, pour éviter aux monoplaces de décoller. Seulement, ils n'ont pas pensé à tout, parce que on va dire un aspect sécuritaire de régler peut créer un autre danger, surtout concernant les modifications effectuées sur des monoplaces. Il fallait penser à tout, ils ne l'ont pas fait du côté de la FIA, puisque dès le début de saison, on a eu des déclarations de la part d'Adrian Newey, ainsi que d'autres spécialistes et experts de la conception de monoplaces, qui ont déclaré que avec les ailerons avant de la saison 2014, il y avait un risque pour que ça ait un effet levier. C'est-à-dire qu'une monoplace qui se trouve devant une autre puisse être soulevée par l'arrière, par l'aileron avant du pilote qui se trouve derrière. Et ainsi, il y aura un risque de taper le casque, tout simplement, si dans le pire des cas, vraiment. Et donc, ça s'est plus ou moins vérifié, ce risque d'effet levier. Et parce que je me demande vraiment, parce que cette année, on a eu pas mal de tonneaux par rapport aux années précédentes. Je trouve qu'il y en a eu pas mal cette année, et je me demande si la configuration de l'aileron avant de cette année n'est pas une cause, parce que quand on regarde bien les différents tonneaux, ça part pas toujours de l'aileron avant, mais je me demande si ce n'est pas une cause des nombreux tonneaux que l'on a pu voir cette saison. Donc voilà, la réglementation 2014, on a voulu de la sécurité du côté de la FIA. Et au final, ça crée un risque en plus. Donc, une erreur de la part de la FIA. Peut-être corrigée, enfin corrigée dès la saison 2015. Ils l'avaient déclaré il y a déjà un petit moment. En théorie, ils vont le faire. Puisque déjà, ils veulent changer le look des ailerons avant de la saison 2015 pour qu'il y ait moins de problèmes esthétiques déjà. Moi, je trouve que c'est assez. Ce n'est pas une raison importante. Puisque cette année, enfin, m'est avis que cette année, même s'il y avait des ailerons qui étaient objectivement moches, ce n'est pas l'important. L'important, c'est qu'un aileron soit efficace, hein. S'il est moche après, peu importe. Après, c'est à l'avis de chacun, à l'appréciation de chacun. Mais ce que j'ai bien aimé au niveau des ailerons avant cette saison, c'est que chaque écurie a plus ou moins trouvé une solution différente pour faire circuler le flux d'air et regagner de l'appui. Et j'ai bien aimé ça, les différentes solutions trouvées par les différents ingénieurs des différentes écuries. C'était très intéressant à analyser en début de saison et par la suite pour voir quelle solution était la plus efficace. On a vu évidemment que Mercedes avait trouvé une très bonne solution. Et voilà, je pense que pour 2015, du coup, on aura peut-être une uniformisation des ailerons avant. Je n'espère pas, j'aime bien que les ingénieurs aient de la latitude pour concevoir leur monoplace et ainsi on voit des looks différents et c'est pas mal parce que ça permet de bien différencier les monoplaces et à l'œil c'est beaucoup mieux pour le spectateur évidemment. Ensuite, oui, là, voilà, il n'y avait pas que pour cette raison de look, il y a aussi pour une raison on va dire, de sécurité. Une raison de sécurité que les ailerons avant vont être changés dès la saison prochaine, puisque en effet, il y a pas mal d'ingénieurs, pas mal de concepteurs qui ont déclaré qu'il y avait un risque avec ces ailerons 2014. Ensuite, outre les ailerons, il y a le DRS dont j'ai envie de parler un peu. J'en parlerai peut-être un peu plus complète, de façon complète dans une autre émission, mais bon, c'est un peu redondant pour moi, je vous avouerai bien, parce que le DRS, j'en ai parlé dans un site qui n'existe plus au cours d'une émission aussi, d'une émission. J'en ai parlé en vidéo auparavant, dans le précédent format d'analyse F1, et là j'en reparlerai peut-être, mais pas tout de suite, hein. J'en reparlerai dans quelques mois peut-être. En détail, mais voilà, pour ne pas non plus rentrer dans le détail du DRS, je veux juste signaler concernant l'aspect sécurité que ce n'est pas complètement ça et que ça a été prouvé dans les années précédentes, puisque les autorités de la F1 étaient obligées de changer le règlement concernant ce système d'aileron arrière mobile, puisque avant on pouvait l'utiliser dans n'importe quelle ligne droite en essai libre et qualification n'importe quand, et ça a été changé puisque, ben déjà d'un point de vue sportif, il y avait des monoplaces qui étaient meilleures au niveau d'appui aérodynamique et qui pouvaient ainsi utiliser le DRS dans des zones que d'autres écuries ne pouvaient pas, ou presque pas, donc déjà c'était assez injuste d'avoir un système comme ça qui favorise plus une écurie qu'une autre, alors qu'à la base le système n'est pas du tout fait pour ça, il est fait pour favoriser les dépassements tout simplement. Et ensuite, ça posait des problèmes de danger à ce niveau, qui avait été rappelé d'ailleurs par Kimi Raikkonen. Et donc, la FIA a décidé de changer ça. Et donc, le DRS, désormais, est utilisable seulement dans les lignes droites autorisées, que ce soit en essai libre, qualification ou course. Mais selon moi, il existe toujours un éventuel danger en course concernant le DRS. Pourquoi ? Parce que quand on utilise le DRS, eh bien, il y a un différentiel de vitesse qui ne permet pas à un pilote, au pilote qui se trouve devant, d'effectuer les mêmes manœuvres défensives que s'il était contre un pilote qui n'a pas le DRS. C'est vraiment deux classes différentes qu'on peut voir entre un pilote qui a le DRS et un pilote qui ne l'a pas, souvent, sauf si ça dépend après. Ça, c'est très schématique ce que je dis. Parce qu'évidemment, ça va dépendre si le pilote de devant a un meilleur moteur, si le pilote de devant a fait un choix d'appui plus faible, ce qui évidemment va le charger en vitesse de pointe, et même une monoplace qui a, on va dire, plus d'appui et qui utilise le DRS ne pourra pas forcément dépasser la monoplace de devant. Mais dans, on va dire, dans une configuration simple et très schématique, de monoplace, on va dire, égale au niveau des réglages, relativement égale au niveau des réglages et de la vitesse de pointe, eh bien, une monoplace avec le DRS qui est 20-30 km/h plus vite, eh bien, ça peut être dangereux si le pilote devant n'est pas, on va dire, très averti au fait du DRS et se décale comme si il était contre un pilote qui n'avait pas le DRS. Ça peut être dangereux. On a vu des accidents dus au DRS, on en a vu quelques-uns. Pas grave, mais on en a vu, quoi. On a vu des trucs un peu bizarres. Et évidemment, le pilote derrière également, s'il freine plus tard, il doit aussi comprendre. Il doit aussi comprendre le pilote qui se trouve derrière avec le DRS, qu'il se trouve avec une vitesse plus rapide et qu'il doit freiner plus tôt que d'habitude. Parce que sinon, il va s'encastrer dans le pilote de devant. Voilà, donc ça pose aussi des problématiques comme ça. Donc pourquoi pas limiter le DRS un peu comme le push-to-pass en IndyCar. Je pense que ça serait une bonne solution. Et selon les circuits également, parce qu'il y a des circuits où le DRS est complètement abusé, où ce n'est même plus faciliter le dépassement, c'est carrément faire le dépassement. Donc voilà, ça pose tout ce genre de problématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, je suis en train de dériver. Mais en tout cas, au niveau du danger, selon moi, il est toujours un danger éventuel présent, et ce n'est pas le système le plus optimisé, selon moi. Par ailleurs, concernant les pénalités, on les a vu fleurir tout au long des années 2000, surtout dans la deuxième partie des années 2000, où là, on a eu une augmentation exponentielle, une croissance énorme des pénalités, et donc des règlements mis en place. J'y reviendrai aussi sur les pénalités dans une émission prochaine, plus proche que celle du DRS, ça c'est sûr, les pénalités, je souhaite en parler. Mais voilà, déjà on a souhaité les mettre en place dans un souci de sécurité et pour montrer de façon politique au monde entier que les pilotes étaient des pilotes, on va dire, ce n'est pas que le pilote de Formule 1 n'est pas un fou, quoi. Qu'il sait se tenir. Seulement, la course, c'est d'essayer de dépasser l'autre. Et on a vu des pénalités les années précédentes, notamment, où il y avait une pénalité pour tout et rien. Pour n'importe quel accrochage, il fallait trouver un fautif. On l'a vu l'année dernière, il y a 2 ans, il fallait trouver un fautif et il y avait une pénalité pour un des deux. Du coup, ça ne poussait pas à l'envie d'aller chercher le dépassement. Et c'est bien dommage quand on. Parce que là, c'est vraiment, par contre, une mesure inutile pour la sécurité, hein, concernant les pénalités. C'est vraiment politique. Et c'est contre la course même. Et ça, je n'aime pas du tout, vous le savez. Je le rappelle dans pas mal d'émissions que quand ça va contre la course, c'est pas bon. C'est les pilotes avant tout. Et là, vraiment, on a mis en place des pénalités dans un souci soi-disant de sécurité, mais qui a servi d'excuse tout simplement. Heureusement, aujourd'hui, en 2014, il aura fallu attendre 2014, mais c'est vrai que tout le début des années 2010 au niveau des pénalités, c'était un peu abusé. Mais en 2014, cette année, il y a eu 2 mesures qui ont été prises qui sont bien. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un drive-through qui fait perdre masse temps, qui n'était pas forcément très justifié, mais bon, respectons les décisions arbitrales, eh bien, il y a une pénalité de 5 secondes, une nouvelle pénalité de 5 secondes mise en place qui peut servir du coup dans ce genre d'accrochage. À être effectué pendant un arrêt au stand, et donc ça fait perdre 5 secondes. Donc voilà, c'est une pénalité plutôt juste et qui fait pas trop perdre de temps et de place, mais ça pénalise le pilote qui a été un peu trop, on va dire, dangereux et qui a, on va dire, pris des risques inutiles en essayant de dépasser un pilote ou en se défendant, ou en se défendant par exemple. Exemple, Magnussen à Spa, quand il défendait sur Alonso dans une courbe. Voilà, concernant les pénalités, également une autre pénalité mise en place. Non, pas une pénalité mise en place, mais plutôt une consigne de la FIA, une consigne qui est pas mal à la direction de course, c'est-à-dire de ne pas s'occuper des petits accrochages, on va dire, qui peuvent être considérés en effet comme des incidents de course, parce que dans chaque, on va dire, accrochage, il n'y a pas forcément un fautif, hein. Les deux peuvent être fautifs, hein. C'est très possible, on le voit très souvent, les deux peuvent être fautifs. Chacun a voulu rester devant, et bien voilà, chacun a voulu se défendre. Il n'y a pas forcément de fautif dans un virage précis. Dans un tel virage, bon, évidemment, dans certaines situations, on peut distinguer aisément un fautif, mais dans d'autres, non. Et c'est pour ça qu'il y a une consigne à la direction de course de ne pas investiguer ce genre d'incident, et ce qui est très bien. Et ça rend les courses, on va dire, un peu. Ça rend les courses beaucoup plus regardables et moins frustrantes concernant certaines actions, parce que les pilotes peuvent se battre et ça les lâche un petit peu plus également. Ça les lâche un petit peu plus. Et c'est mieux, on revient à quelque chose de plus logique, de moins politique, de plus sportif. Voilà, donc concernant ce point, concernant les pénalités, on a vu début des années 2010, vraiment pas bon, et là ça commence à revenir, on va dire, dans le mieux, concernant ce genre de pénalités, concernant les batailles entre pilotes en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je vais aborder maintenant le plus gros point, on va dire, ou le point où il y a le plus de développement concernant le sécuritarisme de la FIA, c'est bien sûr les zones de dégagement en bitume. Voilà, j'en parlais, ça me paraissait vraiment essentiel d'en parler dans cette émission. Tellement de trucs à dire tout d'abord, c'est mauvais par temps de pluie. C'est mauvais par temps de pluie parce que le pilote, du coup, ne peut pas être arrêté par un bac à sable. Et n'a pas le bénéfice du freinage quand il part en aquaplaning. Donc c'est mauvais, c'est dangereux par temps de pluie. Mais bon, comme la majorité des courses s'effectuent par temps sec, on comprend bien que la FIA a pris cette décision et n'a pas pensé vraiment autant de pluie, mais bon, attention quand même. Ça rend les circuits moches. Ensuite, ça c'est vrai, hein, quand on regarde un circuit d'une vue de dessus et qu'on ne distingue plus trop la piste du hors-piste, ça fait un peu mauvais genre, quoi. Et surtout sur des circuits historiques, en fait. La dernière modification en date, c'est dans la Parabolica à Monza, où on a rajouté une zone de dégagement en bitume. Voilà. Ça rend donc les circuits moches. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, le Castellet, quand il était question d'aller au Castellet pour un éventuel Grand Prix de France, l'éternel fil rouge, on va dire, de ces dernières années, hein, le Grand Prix de France, j'en reparlerai également, hein, c'est sûr. Mais voilà, quand il était question d'y aller, eh bien, on a vu plusieurs pilotes s'élever, comme Jenson Button, qui déclarait ce circuit comme étant moche, parce que oui, c'est un circuit, on va dire, qui se décline en plusieurs circuits, donc avec des zones de dégagement tout en bitume, heureusement bien délimitées par un code couleur, on va dire, mais voilà, c'était un petit peu avant, on va dire, que les zones de dégagement en bitume soient vraiment instaurées vraiment sur tous les circuits, même si déjà c'était bien le cas à cette époque-là. Ensuite, d'un point de vue sportif, eh bien, à mon avis, c'est mauvais également ces zones de dégagement en bitume. Pourquoi? Parce que ça laisse déjà plus de marge d'erreur aux pilotes. Donc, qui peuvent se dire, bon, je peux attaquer, je peux prendre un risque et faire une erreur. De toute façon, je vais ressortir large, ça va me faire perdre une demi-seconde ou une seconde, c'est pas très grave, hein, je risque pas l'abandon ni rien, ou d'abîmer trop mes pneus. Donc voilà, ça laisse une plus grande marge d'erreur, ce qui est dommage. Mais par contre, c'est bien en essai libre, je trouve. Si ça devait être conservé, ça sera en essai libre, puisque ben, c'est bête en essai libre, hein, tu fais une erreur alors que les essais libres c'est fait pour tester, tu fais une erreur et tu finis ta séance d'essai libre au bout de 3 tours, ça c'est assez frustrant quand même. Donc là, pour ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Du coup, les pilotes peuvent bien optimiser leur réglage et comment dire, leur trajectoire. Ensuite, c'est contre les instincts, concernant toujours le point de vue sportif, selon moi, c'est contre les instincts des pilotes. Que sont faites ces zones de dégagement, car elles sont de la même surface que la piste. Et c'est pour ça qu'on voit pas mal de pénalités, qu'on peut trouver peut-être un peu bêtes. Pénalités, vous savez, les fameuses pénalités à gagner un avantage en piste. Mais on ne peut pas trop en vouloir aux pilotes, selon moi, sur pas mal de pénalités, parce qu'ils agissent naturellement, comme n'importe quel pilote ferait. Ils sortent certes de la piste, mais ils se retrouvent sur une surface qui ne les ralentit pas, du coup ils vont pas ralentir. C'est vraiment contre nature de ralentir de soi-même, quoi. S'il y avait de l'herbe, ils ralentiraient de façon naturelle, on va dire. Mais comme il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de surface qui ralentit, eh bien ils restent le pied au plancher, et c'est bien normal, ils se battent. Et c'est pour ça qu'on a vu par exemple la pénalité de Jean-Éric Vergne dans le virage après la grande ligne droite à Singapour. D'ailleurs, le virage, ah oui, je vous invite tous à aller le voir. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer là. N'hésitez pas si vous ne voyez pas quel virage c'est, à me le dire sur les réseaux sociaux, et je vous mettrai une image. Du circuit en pointant du doigt, on va dire, l'endroit désiré. Et voilà, c'est le virage à gauche après la grande ligne droite à Singapour, où là on voit que ils ont eu le désir du côté de la F1 de faire refermer le virage très tôt, parce qu'il y a des vibreurs qui sont placés de façon ridicule, qui sont d'une longueur, on va dire, ridicule en plus, et qui en plus ne marque rien, quoi, ne marque rien, parce que le hors-piste, c'est vraiment le prolongement de la piste, du circuit, et le mur se trouve très loin. Donc évidemment, Jean-Éric Vergne, là, comme je l'ai dit, c'était contre nature de freiner, de ralentir après être sorti de la piste, mais c'est pas vraiment une sortie de piste pour lui, enfin, on ne le ressent pas comme ça dans le baquet, les pilotes ne le ressentent pas comme ça dans le baquet. Donc, et le vibreur est scandaleux, hein, comme je l'ai dit, hein, d'une longueur ridicule, ne ralentit pas, sert juste à montrer la volonté de fermer le virage plus tôt, mais autant soit l'enlever, soit rapprocher le mur, hein. Ça serait beaucoup mieux et ça créerait pas autant de polémiques. En plus, si on l'enlève, l'avantage, c'est qu'il y a plus de place pour tenter des dépassements et pour se battre. Et rapprocher le mur, eh bien, moins de marge d'erreur pour le pilote et donc un circuit un peu plus impressionnant, un peu plus près des murs. Voilà, tout simplement, après rapprocher le mur dans un circuit urbain, c'est peut-être pas forcément, on va dire, possible. Ça dépend de la configuration de la ville, ça dépend de la mobilité du mur éventuellement. À voir, à voir, à voir, à voir. Mais en tout cas, ce genre de virage, c'est assez scandaleux. Et après, du coup, on voit des pénalités. Pénalités après qui respectent le règlement, attention, ça c'est sûr. Les pénalités sont globalement justifiées. Mais c'est la configuration des circuits qui est mauvaise, hein, tout simplement. Et le fait de mettre ces zones de dégagement là, évidemment, ça favorise ce genre de pénalités un peu débiles et contre nature pour le pilote. Voilà. Alors, quelles sont les solutions? Parce que oui, c'est bien beau de critiquer tout ça, et c'est très critiquable en effet, à tous les points de vue là. J'ai vraiment cité pas mal d'arguments. Je pense que on peut qu'être d'accord là, on peut que tomber d'accord concernant ces zones de dégagement, même si voilà, il y a un point que j'ai pas cité. En effet, c'est que elles ont été mises en place dans un souci de sécurité. Voilà. C'est le point important puisque je parle du sécuritarisme. Donc ça fait partie du sécuritarisme de la FIA, ça, ces zones de dégagement en bitume. Parce que c'est voulu pour un point de vue de sécurité, pour que les pilotes, quand ils partent en tête à queue, puissent freiner et s'arrêter, pas forcément aller dans le mur. Mais voilà, on oublie très souvent, on oublie quand même, on oublie souvent du côté de la FIA. Qu'on ne peut pas faire un sport 100% sécuritaire en sport auto, et que à vouloir faire trop de sécurité, on peut dénaturer le sport. Et c'est ce que la FIA montre à travers divers trucs, par exemple les diverses choses que j'ai déjà citées lors de cette émission. Quelles sont les solutions concernant ces zones de dégagement? Est-ce que ce serait remettre les graviers? Je ne pense pas, parce que vu la direction prise par les instances de la F1, ça me semble impossible de revenir au bac à gravier. Donc il faut envisager d'autres solutions. Est-ce que ce serait possible, par exemple, avec la technologie actuelle? Je pose une question, hein, je ne sais pas. N'hésitez pas, si vous avez des connaissances en technologie, hein, de me le dire. Est-ce que ce serait possible, comme la F1 est très électronique maintenant, très électrique, très électronique, de mettre en place des capteurs à chaque zone de dégagement en bitume, et qui peut faire gagner un avantage, on va dire, de mettre des capteurs électroniques qui, à chaque passage d'un véhicule, à chaque fois que les quatre roues d'un véhicule seront sur, on va dire, sur le hors-piste, on va dire, sur la partie hors-circuit, eh bien, les capteurs se déclenchent et. Par le truchement de la technologie, les capteurs se déclenchent et sur le circuit et dans la voiture, et du coup ça ralentit automatiquement la monoplace. Selon moi, ça serait une solution si jamais c'est possible de façon technologique et si jamais le coût n'est pas trop excessif, on va dire, vu que la F1 cherche à réduire les coûts, pourquoi pas? Autre solution, est-ce que ce serait possible de mettre une autre surface ralentissante par exemple? Je ne sais pas laquelle, hein, je m'y connais pas trop, mais quelque chose d'autre que du bitume, que d'une piste, quoi, carrément, ça serait pas mal. Autre solution, on va dire, provisoire selon moi, ça serait mettre déjà le hors-piste d'une couleur différente de la piste. Pourquoi? C'est tout simplement psychologique selon moi, parce que les pilotes, comme ça, différencieront mieux le hors-piste de la piste et verront mieux qu'ils sont dans l'erreur par rapport au règlement et qu'ils devront ralentir. Tout simplement. Et également concernant les vibreurs, pourquoi pas les rehausser? Parce qu'il y a des vibreurs, mais ils sont carrément inutiles. Celui de Singapour, c'est pas un vibreur selon moi. C'est de la peinture de vibreurs. Mais c'est quasiment pas un vibreur. Il faudrait peut-être les rehausser, comme ça ralentit automatiquement le pilote. Pas trop les rehausser pour pas non plus casser la suspension de la monoplace. Mais bon, les monoplaces sont assez solides aujourd'hui et pourraient supporter, et peuvent supporter quand même certains vibreurs. Donc rehausser les vibreurs, ça ralentit. Et puis comme ça évite pas mal de problèmes en course, les problèmes que j'ai cités. Voilà quelles seraient les éventuelles solutions. N'hésitez pas à réagir avec soit sur la page Facebook d'Analyse F1, soit le Twitter d'Analyse F1, @F1Analyse, ou à travers un hashtag, tiens, que je souhaite lancer, je sais pas si ça va marcher, le hashtag Vivons notre passion. Allez, faites-vous plaisir, j'irai vérifier si vous avez mis des messages dessus. Enfin, pour clôturer cette émission, je souhaite reparler de l'accident de Jules Bianchi. Jules Bianchi. Et surtout, on va dire, comment dire? de la remise en question qui peut être faite par la F1 concernant cet accident. Alors selon moi, tout d'abord, il faut pas tomber dans l'excès, on va dire, de remise en question, dans le sens où je n'espère pas. Je n'espère vraiment pas que la FIA va tomber dans la facilité et pour faire plaisir, parce que souvent la FIA l'a fait, hein, on l'a vu, hein, on l'a vu à travers les différents développements que j'ai faits, la FIA l'a fait, donc pourrait le faire, c'est-à-dire tomber dans l'excès pour montrer que la FIA sait réagir et mettre en place plus de sécurité. Évidemment, ce serait éminemment politique. Et donc, je n'espère pas que la FIA va mettre en place un safety car automatique à chaque sortie de piste. Comme c'est le cas en IndyCar, par exemple, avec à chaque drapeau jaune, il y a un safety car. C'est obligatoire. Mais j'espère qu'en Formule 1, ce ne sera pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu des courses de IndyCar. Alors certes, on a du spectacle, ça c'est sûr, mais les courses sont hachées, mais vraiment hachées. Chaque restart peut être synonyme d'un nouveau drapeau jaune. Et au niveau de la stratégie en course, c'est pire qu'un casse-tête, là. Déjà, quand il y a un seul safety car dans une course en Formule 1, ça pose déjà les comment dire, les écuries doivent vraiment réfléchir pour trouver la bonne stratégie, ce qui est très bien, mais quand il y a un excès de safety car, c'est pas n'importe quoi, mais presque quand même. Donc faut faire attention avec ça, ne pas tomber dans l'excès. Attention. Mais voilà, ce qui pourrait être possible, par exemple, pour améliorer la sécurité et empêcher que un accident comme ça qui est plus que malheureux, c'est scandaleux. C'est scandaleux de voir ça en Formule 1. C'est scandaleux. Tout simplement, c'est un accident scandaleux. Je ne sais pas qui revient à la faute, si c'est les commissaires de piste japonais ou si c'est la direction de course. C'est un des deux et l'enquête va démêler le vrai du faux, va dire si qui est la faute et ça va aider grandement la FIA à instaurer de nouvelles choses pour renforcer la sécurité, éviter que ça se reproduise. Mais voilà, en tout cas, il y a eu une erreur à quelque part. Et c'est tout simplement scandaleux de voir ça aujourd'hui en Formule 1. D'autant plus avec ce que ça a causé à Jules Bianchi. Voilà, ce qui serait possible, ce serait déjà d'instaurer un safety car obligatoire quand il y a de la pluie en Formule 1 et qu'il y a une sortie de piste. Ça me paraît normal. Les conditions de pluie sont quand même peuvent être assez compliquées, assez hasardeuses, et on ne peut jamais prévoir quand un pilote va partir à la faute dans ces conditions. Donc, ce serait normal que quand un véhicule doit être dégagé en piste et que quand une monoplace doit être dégagée par un autre véhicule qui rentre, on va dire, dans un périmètre atteignable par une autre monoplace en piste, il faut qu'il y ait un safety car. Quand encore il y a des circuits comme Monaco où il y a des grues qui permettent, enfin, je sais pas si c'était Monaco, parce que quand il pleut à Monaco et qu'il y a une monoplace qui sort, c'est quand même mieux aussi d'instaurer le safety car, sauf s'il n'y a aucune voiture dans le périmètre et qu'ils ont le temps de la dégager avant qu'une autre monoplace arrive. Mais je veux dire, il y a d'autres circuits où il y a des grues tout simplement qui sont extérieures à la piste complètement, qui sont inatteignables par d'autres véhicules et qui peuvent repêcher les comment dire, les monoplaces sans risque et donc pas besoin de safety car. Donc voilà la différence. Mais quand il y a un véhicule qui rentre en piste, voilà, et safety car obligatoire, ça me paraît normal. Et il y a une grosse erreur au Grand Prix du Japon concernant ça. Bon, partant sec, ça apprécie au cas par cas, selon moi, ça dépend des virages. Ça dépend si on a le temps de dégager la monoplace ou pas, le temps qu'un autre véhicule arrive, qu'une autre monoplace arrive. Voilà, c'est au cas par cas, partant sec. Partant sec, il n'y a pas de solution parfaite, selon moi, il y a toujours il n'y a pas de solution parfaite, on ne pourra jamais éviter un risque. Il y a toujours des risques en Formule 1, il ne faut pas l'oublier, donc il ne faut pas tomber dans l'excès, j'y reviens. Autre solution, bannir les véhicules entrant en piste comme ça, démocratiser les grues tout court qui sont extérieures à la piste, mais est-ce que c'est possible? Tout d'abord, d'un point de vue logistique, d'un point de vue financier, etc. Ça, c'est une autre question à comment dire, à répondre. Et je pense que les autorités de la F1 y réfléchissent déjà. Donc, à voir. Autre solution qu'on envisage, ce serait les cockpits fermés. Pourquoi pas un cockpit fermé en Formule 1? Mais n'est-ce pas excessif? Est-ce que ça ne va pas trop dénaturer la Formule 1? C'est des questions qui se posent également. Parce Parce que la Formule 1 a toujours été un sport, et les sports de monoplace, enfin, pas mal de sports de monoplace sont avec cockpit ouvert, ce qui fait aussi le charme. Donc, à voir si ça dénature pas trop la Formule 1. Est-ce que aussi ces cockpits fermés, s'ils sont mis en place, il faut vraiment que ce soit efficace. Faut pas que ce soit une mesure politique également. Faut que ce soit une mesure dont les tests ont prouvé que ces cockpits fermés peuvent répondre à toutes les situations, à peu près 99% des situations, et peuvent vraiment protéger la tête du pilote. Et donc le pilote en lui-même dans les cas, dans à peu près tous les cas. Voilà, sinon si c'est pas le cas, ça sert à rien parce que les monoplaces ont déjà une énorme protection. Et en faire trop et faire de l'inutile, ce serait idiot. Ensuite, concernant les cockpits fermés, en plus, il y a d'autres questions qui se posent. Est-ce que le problème d'évacuation de l'eau quand il pleut, et donc de visibilité pour le pilote, ça aussi c'est à évaluer. Et aussi, il faut que ce soit dans un. Il faut que le matériau qui compose, on va dire, cette coque fermée, il faut que ce soit un matériau qui ne blesse pas le pilote en cas de casse, évidemment. Voilà, tant de questions à résoudre, mais je pense que bon, parmi tout ce que j'ai dit, il y a la solution, il y a des solutions au problème, au moins une à appliquer, au moins celle du safety car obligatoire en temps de pluie quand il y a une monoplace qui doit être dégagée et qu'il n'y a pas de grue qui puisse la dégager. Et bien, je pense que c'est une solution déjà obligatoire déjà. Et qui rassurera les pilotes, parce que les pilotes ont besoin d'être rassurés, demandent des explications. Sergio Pérez, très en colère, comme Massa, et ben ils veulent se faire entendre et ils veulent des réponses de la part de l'autorité de la F1 pour que ça ne se reproduise plus, qu'il n'y ait plus de scandale comme ça. Parce que c'est vrai que c'est scandaleux et qu'il faut apprendre de cette grosse erreur. Voilà, finalement, la deuxième partie de l'émission un peu longue. J'aurais peut-être dû faire du coup la pause quiz un peu plus tard. Veuillez m'excuser si c'était assez relou, assez lourd, on va dire, à écouter cette deuxième partie. J'espère quand même que j'ai été plutôt clair dans mes explications, plutôt vivant également. N'hésitez pas à laisser en commentaire hein, vos critiques également, que ce soit positif ou négatif. Je prends tout et ensuite j'essaye de faire au mieux pour m'améliorer. Voilà, je vous cache pas également que si je n'ai pas trop mis le ton dans cette émission, c'est parce que je n'en ai pas vraiment le cœur. Et voilà, j'aurai sûrement, ça viendra avec le temps, que j'ai un peu plus le cœur au podcast et à mettre du ton dans ma voix. Mais là, semaine très compliquée pour moi, émotionnellement, par rapport à l'accident de Jules Bianchi. J'espère que vous me comprenez et que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, je vous remercie en tout cas pour avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à apporter votre soutien à Jules Bianchi, même que ce soit mentalement. Ce qui compte, c'est l'intention. On apporte tous notre soutien à la famille de Jules Bianchi, vraiment pour avoir du courage dans cette situation, à tous ses proches. À tout le monde de la Formule 1 également, on se serre tous les coudes hein, pour tenir, pour souhaiter, on va dire, le mieux pour le pilote français. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, on attend, on attend, on attend. Il ne reste plus qu'à attendre pour voir comment sa situation médicale va évoluer. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On va se quitter avec une musique de Why Blues, du groupe Why Blues, dont vous avez déjà écouté une chanson en milieu d'émission. Et donc, ce sera, c'est officiel, la chanson Prologue qui se trouve à la fin de leur album sera l'ending, le générique de fin d'Analyse F1 durant les prochaines émissions, les prochains podcasts tout court. Et donc voilà, je suis content d'annoncer, on va dire, d'annoncer cela. Et merci au groupe Why Blues hein, d'avoir bien accepté de diffuser leur musique. C'est un plaisir de pouvoir faire découvrir un groupe indé aux auditeurs. D'ailleurs, si parmi vous, chers auditeurs, Vous êtes un artiste ou vous connaissez un groupe ou vous avez un groupe et que vous souhaitez vous faire connaître via les pauses musicales d'Analyse FM, eh bien, n'hésitez pas à me contacter de n'importe quel biais que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et ensuite on pourra voir pour diffuser votre musique. Je ne suis réfractaire à aucun genre tant que les paroles ne sont pas violentes, ne prennent pas la haine, le racisme, etc., etc. Je prends tout, donc n'hésitez pas vraiment. Si ça peut être une occasion de vous faire connaître, allez-y. Ne soyez pas timide, comme vous le voyez. Je diffuse des groupes indépendants. Là, en premier, le groupe Poy Blues, groupe grenoblois. N'hésitez pas à le suivre si leur musique vous plaît. Voilà, et eh bien, à plus pour un nouveau podcast. Peut-être un peu moins d'une semaine, parce qu'il faut parler des transferts. Je verrai. Je verrai selon le temps que j'ai et selon les sujets qui se présentent à moi pour le prochain podcast. Voilà, et eh bien merci d'avoir écouté et à bientôt. Et surtout, voilà, ensemble, tous ensemble, dans le monde de la Formule 1, vivons notre passion. À bientôt.